Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro Pierre-Paul Delvaux pour continuer notre lecture cursive de l'Évangile de Jean avec le Père José Willibald Michaud. Et vous le savez, chers auditeurs, nous souhaitons que ces textes que nous abordons fassent écho dans votre vie. Nous avons, dans la dernière émission, vu Jésus s'entretenir avec Nicodème. Et puis, juste après, quand Nicodème disparaît en quelque sorte, chapitre 3, verset 13, quand Nicodème disparaît, il y a un développement théologique et le Père José nous a déjà commenté le verset 16. « Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est la première apparition du verbe « aimer ». Vous avez également commenté, Père José, le verset 21. « Celui qui fait la vérité vient à la lumière, que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. » Et vous avez insisté sur le verbe « faire la vérité ». Et si vous voulez bien, nous allons revenir un peu en arrière au verset 17. Je crois qu'il y a là quelques mots-clés qui sont importants pour continuer notre lecture. Le verset 17. « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc il y a ici l'opposition entre juger et sauver. Quel est donc le sens de ces deux verbes ?
Le thème du jugement est très important dans la tradition ancien testamentaire. Il domine un peu toute la perspective. Et Jésus semble être venu pour nous libérer de cette obsession du jugement et de la remplacer par celle du choix, l'ouverture à sa parole, l'ouverture au message de l'amour. Et je crois que le choix qui s'offre à nous est celui entre oser croire à l'amour qui s'offre ou le refuser ou y rester imperméable. Et c'est ça le principe du jugement. J'ose croire à l'amour qui me vient ou je me ferme, je reste dans la suffisance de ma solitude. Je crois que c'est ça le principe du jugement, c'est dire oui ou non à l'amour offert.
C'est bien l'ouverture du cœur, tout
l'ouverture
simplement.
L'ouverture du cœur.
L'ouverture du cœur. Et c'est ce que Jésus attend, et c'est ce qu'il admire quelquefois quand il admire la foi, tout simplement, de telle ou telle personne qui font un pas vers lui.
C'est ça. Dans le mot foi, il y a d'ailleurs le mot confiance. Il y a quelque chose de relationnel dans le terme de foi. Dans l'écriture. Pistis, c'est plus qu'une adhésion intellectuelle. C'est vraiment, comme vous le disiez, l'ouverture du cœur.
Et vraiment un engagement et un risque, en quelque sorte.
Sûrement. Ah, dans ce risque, mais c'est un risque d'aimer et d'oser croire qu'on est aimé. Il y a un risque.
Il y a un risque, certainement. Et voilà un mot autour duquel nous pouvons méditer, certainement. Oui. Alors, à la fin du chapitre 3, Père José, nous voyons réapparaître Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, finalement, on a l'impression qu'il se répète un petit peu.
C'est ça, il se répète, mais c'est peut-être en fonction de ce procédé très biblique qu'on appelle l'inclusion. On ouvre et on ferme un développement par la même expression, par la même répétition. Et Jean, de fait, qui a ouvert l'évangile, vient ici conclure cette première étape. Jésus est retourné en Judée, près du Jourdain, et c'est là, de nouveau, près du Jourdain, que Jean réaffirme « Ne vous attachez pas à moi, je ne suis pas le Messie, mais après moi vient », et alors il emploie ici un mot nouveau dans le style de Jean, « vient l'époux, celui que Dieu a envoyé ». Il y a les deux mots, « époux » et « envoyé ». Le Père, alors continue Jean, « le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main ». C'est ici qu'intervient l'idée du jugement. Le Fils est l'expression de l'amour du Père. Pouvons-nous y faire accueil ? Et c'est lui, le Fils, qui donne la vie. Et donc, par cette dernière affirmation, Jean conclut, qui a ouvert l'évangile, conclut son premier témoignage par cette répétition. C'est tout et c'est dire aussi l'importance de ce premier moment.
Oui, et il termine son intervention par la phrase célèbre « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue ».
Évidemment. Elle définit Jean, ça.
Oui. Et c'est en cela, je pense, que dans la spiritualité orthodoxe, Jean le Baptiste est considéré comme un des plus grands, grands passeurs, en quelque sorte.
Tout à fait. Et c'est d'autant plus impressionnant que Jésus puisse dire « Jean était peut-être le plus grand des prophètes, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui ».
Oui, voilà.
Jésus ose dire ça.
Oui, voilà qui est tout à fait saisissant, en effet. Et donc, Jean conclut ce chapitre.
Il conclut.
Alors, nous allons aborder un deuxième entretien, un deuxième grand entretien, et je me plais à opposer, en quelque sorte, ou à contraster l'entretien avec Nicodème d'une part et l'entretien avec la Samaritaine d'autre part. Nicodème est un notable, un savant, et puis il vient trouver Jésus la nuit. La Samaritaine a l'air d'être une femme un peu marginale, avec sa vie un petit peu olé-olé, c'était connu de tous sans doute, et elle le rencontre en plein midi, donc en pleine lumière.
Tout à fait.
Et donc c'est vraiment une scène tout à fait contrastée. Et je sais, Père José, aussi que vous l'aimez beaucoup. Je vais lire la première partie de ce chapitre 4. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas de seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5 et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient, et maintenant elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » La scène n'est pas tout à fait finie, Père José, mais nous avons déjà beaucoup à dire ici.
D'accord.
Et peut-être une première chose, c'est au verset 4, « Il lui fallait traverser
D'accord.
la Samarie. »
D'accord. Donc, je crois que ce qui est important dans cette scène, c'est que Jésus est à mi-chemin, c'est important, entre la Judée et la Galilée. Mais que pour passer de l'une à l'autre, il doit, dit le texte, passer par la Samarie, qui est un pays ambigu. Un pays habité par une population très mélangée depuis l'exil, mi-juive, mi-païenne, peut-être mi-cananéenne. Et Jésus est donc dans un pays très mélangé, très, très incertain comme population. Alors, il est harassé, le terme est dans le texte, harassé par la fatigue du chemin, par la brûlure du désert. Il est donc midi. Moitié du jour, et face à l'éclat du jour, il ne reste pour lui que l'immédiat. Tout désir est absorbé par la soif. Jésus connaît cette paralysie du désir. Et il s'assied au bord d'un puits. Je retiens d'abord le mot de puits, avant de revenir à Jacob. Un puits. Et le puits est très important dans ces pays de la chaleur et de la soif. C'est la pauvre réserve humaine que creusent péniblement les hommes pour apaiser la soif. Et je pense ici à un texte du livre des Nombres qui célèbre le puits, et je le cite, « Chantez-le ». Ce puits qu'ont foré les chefs des peuples, c'est Nombre 21-16. Et Jésus s'assied donc au bord de ce puits, qui est le puits de Jacob. Alors ici, je voudrais m'arrêter un moment sur la mention de Jacob. Jacob est un petit patriarche mineur, à la lecture de la Genèse et de l'Exode, mais qui est soudain grandi par le passage d'une frontière indécise, et celle qui va le mener à affronter son frère Ésaü, celui qui l'a frustré. Le mot de Jacob veut dire d'ailleurs le rusé. Et Jacob a peur de son frère et de la rencontre avec lui. Alors, il hésite, il fait d'abord passer sa famille et ses troupeaux, et puis il reste seul au bord du gué au moment où la nuit tombe, hésitant. Et puis, au moment, quand la nuit est tombée, il se risque, peut-être à la faveur de la nuit, à traverser le gué. Mais là, il se heurte à une puissance anonyme, mystérieuse, qu'il ne parvient pas à déchiffrer, mais il résiste. Et ce mot est important dans l'événement. Il résiste toute la nuit, il se bat. Il se bat. C'est une lutte. Et à la fin de la nuit, il questionne son adversaire sur son nom. Quel est ton nom ? Mais se bute sur le mystère, sur le refus d'un certain mystère. Et puis la question se retourne, et c'est lui, Jacob, qui est renommé, réidentifié, clarifié. Désormais, il portera le nom d'Israël, qu'on peut traduire « celui qui tient bon », « celui qui résiste », « celui qui tient bon face à Dieu ». Oui, le mot de Dieu est dans le mot « Israël ». Et ce nom nouveau va devenir le patronyme du peuple élu. Mais il y a une espèce de glorification du nom. Et cependant, et c'est aussi important, Jacob a été déstabilisé dans cette lutte et il reste blessé. La traduction d'un de mes vieux amis disait, à la fin du récit, il cloche de la hanche.
Nous allons faire une toute petite pause musicale, Père José, si vous voulez bien, avec cette belle image, celui qui tient bon et celui qui est blessé. Oui. Je crois que pour une vie spirituelle, je pense, et une vie tout court, de toute façon, c'est tout à fait exemplaire. Nous faisons une petite pause musicale avec Jacques Berthier.
D'accord.
Sur RCF, nous continuons en compagnie du Père José Willibald Michaud, notre lecture cursive de Saint Jean, au chapitre 4, la rencontre avec la Samaritaine. Au début de cette scène, nous voyons Jésus harassé, qui est assis au bord du puits de Jacob. Et vous avez évoqué, Père José, le combat de Jacob contre un être mystérieux. Dieu, ange ou homme, on ne sait. Et au terme de ce combat, Jacob est renommé par son adversaire. Désormais, il s'appellera Israël, que l'on peut traduire par « celui qui tient bon », « celui qui résiste », « celui qui résiste à Dieu ». Et ce nouveau nom le clarifie.
C'est le fait d'être clarifié qui lui révèle qui pourrait être son adversaire. Mais dans ce combat, Jacob, identifié et blessé, devient, me semble-t-il, le chef de file de cette race que j'appellerais des blessés de l'esprit, de tous les survivants de cette lutte profonde avec le mystère de leur propre identité, mais aussi de celle de Dieu. C'est ça la lutte. C'est la lutte pour se découvrir soi-même et découvrir qui nous fait face. Et tous ceux qui connaissent cette lutte gardent la trace, la cicatrice de cet affrontement. Et c'est une cicatrice féconde, bénie. Et ils deviennent par là, par cette lutte douloureuse et féconde, les prototypes, je crois, de tout combat mystique. Et nous retrouvons bien avant notre époque, nous retrouvons dans l'histoire sainte un Jérémie, par exemple, je pense au chapitre 20, 7 à 1, cette plainte merveilleuse. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais alors, c'était comme un feu dévorant, enfermé dans mes os, je m'épuisais à le contenir, je ne pouvais le supporter. Je trouve que c'est une merveilleuse évocation de la lutte mystique. Après Jérémie, bien sûr, on peut penser à l'apôtre Paul et à son écharde, c'est le nom qu'il lui donne. Voyez 2 Corinthiens 12, 7. Cette blessure insupportable qui amène Paul à supplier Dieu de l'en délivrer et qui reçoit comme réponse « Ma grâce te suffit ». Après Jérémie et Paul, je pense alors, en revenant à nous, à l'idiot de Dostoïevski, ce prince Mouchkine, blessé dans son être par la malédiction de l'époque qu'était l'épilepsie, et qui, en traversant cette épreuve, devient le révélateur mystérieux de toute sa génération. C'est une figure, je crois que pour Dostoïevski, c'était une figure christique. Bon, Jacob Israël va rester la personnification du peuple éprouvé, du peuple élu éprouvé. Et il faut voir ici, peut-être, il faut relire des passages du second Isaïe, donc la seconde partie d'Isaïe, les chapitres 48 et 49, où le nom de Jacob rassemble la personnalité du peuple tout entier. Dans son épreuve, il est la personnification. Alors, est-ce que tout cela, cette expérience, revient à la mémoire de Jésus? On peut se poser la question. Est-ce que tout le passé d'Israël remonte doucement en lui lorsqu'il se repose au bord du puits de Jacob? Et là, il faudrait presque reparcourir toute l'histoire spirituelle de la Bible pour donner une réponse. Voilà pour le puits et le puits de Jacob. Moi, je passerai ici à la seconde étape qui est surgit une femme. Une femme, à midi, une curieuse heure pour venir puiser de l'eau. Elle est seule, que vient-elle faire? Elle cherche une rencontre ou l'aventure, simplement, nous ne le saurons pas tout de suite. Mais Jésus, brusquement, l'interpelle en lui demandant à boire. « Donne-moi à boire. » Et là, cette demande, cet aveu et cette demande de Jésus, nous la retrouvons deux fois dans l'Évangile. Et c'est deux fois très importante. La première, c'est ici, et la seconde, c'est sur la croix. Je donne la référence, Jean 19, 28, et je lis le texte. « Sachant que désormais tout était consommé, Jésus dit, pour que l'Écriture fût pleinement accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa donc à un javelot une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est consommé ». Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. C'est son dernier mot, semble-t-il. Je pense ici, alors, une référence qui est certainement présente dans la pensée de l'évangéliste, dans le psaume 69, les versets 1 et 22, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. Pour nourriture, ils m'ont donné du poison, dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. » ce psaume est présent dans la pensée de l'évangéliste. Est-ce que la soif de Jésus a accompli l'Écriture ? Voilà, je reste sur cette question.
Voilà, eh bien c'est justement ici que nous pouvons conclure pour aujourd'hui, Père José,
oui.
Où véritablement nous sommes à un moment important, ce moment de midi où il n'y a plus aucune ombre,
non, voilà.
Où il n'y a plus aucun
support.
Aucun support.
Et, aucune réponse.
Oui, voilà. Merci Père José et à bientôt.
À bientôt.
Nous nous quittons maintenant, oui, avec Jean-Sébastien Bach.
Magnifique.